Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour à tous. Merci de nous suivre comme chaque semaine dans ce podcast On s'aime fort. Un petit rappel, On s'aime fort, le livre est disponible évidemment dans toutes les librairies, dans les grands réseaux et puis bien sûr en vente sur monjardinbio.com. En tout cas, merci infiniment pour tous vos messages, ça nous fait très plaisir. Top générique. On s'aime fort. Le podcast du jardin. Nous sommes le vendredi 26 janvier, bonjour à toutes et bonjour à tous, l'été est de retour, alors ça c'est juste évidemment un coup de gueule climatique mais comme on a l'habitude. Ouais. Bonjour Eric, t'as dégelé, ça y est?
Bonjour Brice, ouais, j'ai les tongs.
Ouais, limite, ouais. Alors c'est toujours, alors j'ai quand même deux coups de gueule parce que certains journaux sont adeptes du micro-trottoir et c'est toujours très, je sais pas, gênant au bout d'un moment de voir qu'on interroge des gens et les gens nous disent « Ah bah ouais, c'est génial, il fait 24 degrés, je vais pouvoir aller me baigner dans la mer ou me balader. » Oui, enfin, je pense pas qu'il faille forcément s'en satisfaire. Hein,
non, pas du tout. Non. Janvier. Je dirais que les sauts de température, c'est-à-dire entre samedi... Je suis allé faire une animation, moins 9 degrés, et lundi matin, j'étais à plus 9 degrés.
C'est-à-dire, c'est ça.
Donc, à la même heure, hein, c'est-à-dire à 6h30 du matin. Donc, je suis parti, et donc, c'est terrible parce que ça, la nature, le coup de froid est peut-être suffisant, du coup, parce qu'on a eu quand même un coup de froid pendant quelques jours, avec des moments où toute la journée, ça gelait. Voilà. Donc, au niveau suffisance de froid, il y a certains végétaux, c'est suffisant. Et donc, dès qu'il y a eu un coup de chaud là, qui risque de durer un bout de temps, là, d'après ce que j'ai compris, hein, au moins pendant encore 10 jours, ce qui va se passer, c'est que le réveil de la nature peut venir d'un seul coup, quoi.
Il faudrait, quoi, évidemment, que ça se calme. Hein,
oui, voilà, ça se calme. Donc, ils ont prévu un moins 1, plus 3 la nuit, donc dans nos secteurs nord. Ouais. Quand on voit que dans le sud, il fait des températures complètement dingues, faut pas espérer qu'il y ait un coup de froid au printemps, quoi. Hein. Donc là, faut vraiment pas se satisfaire de ça du tout. Et là, il faut pas non plus que le changement climatique soit intéressant l'hiver parce qu'il fait plus chaud. Hein. Il faut aussi s'en inquiéter quand il fait plus chaud l'hiver, quoi.
On est d'accord. Voilà. Et pas voir le bon côté des choses. Mais regarde cette pirouette totale. Le réchauffement climatique ou le changement climatique est aussi interprété par certains Bretons, par exemple, comme une opportunité de cultiver de la vigne.
Complètement. Complètement. Et d'ailleurs, il y a certaines opportunités, je dirais, du changement fait qu'on parle même des oliviers, de faire monter les oliviers. En sachant que là, d'après ce qu'on nous prédit, c'est 15 euros à 20 euros le litre qui est prévu d'ici 6 mois parce que les productions espagnoles n'ont pas été bonnes à cause des sécheresses importantes. Faut peut-être, le fait de faire monter l'olivier à la place des pommiers qui ont besoin de froid, eux, ces arbres fruitiers, donc ils vont peut-être remonter encore plus vers le nord de la France. Donc, des oliviers peut-être dans la vallée du Rhône, mais vraiment dans la partie haute de la vallée du Rhône. Donc là, on voit bien une modification, des productions aussi. Mais faut pas se satisfaire simplement de ça, parce que ça veut dire qu'il y a certains secteurs où on est plus près du désert, donc notamment l'Espagne. Bon, ça aussi, c'est un désert ce désert économique qui va avoir lieu. Ça va être aussi un désert aussi de production. Mais c'est aussi parce qu'il y a eu un désert de biodiversité avec tout et n'importe quoi, quoi.
Oui, et puis on a tous ces images en tête de ces marées, de ces mers de plastique. Hein, on appelle ça, la mer de plastique, je crois. Il y a un secteur en Espagne où c'est des serres à perte de vue.
C'est des serres avec... on dit que l'eau est gérée, mais il y a eu des puits qui ont été forés ici et là, d'après ce que disent les informations, hein, avec une quantité de pesticides qui est quand même importante. Faut vraiment pas se satisfaire. Et si aujourd'hui il y a peut-être des autoroutes un peu bouchées, c'est aussi parce que il y a ces différences au niveau des différents pays européens qui font qu'il y en a qui sont pas très contents en ce moment.
Alors, pour le coup, tu me fais une transition. On va pas faire la revue de presse, hein, pas du
non,
tout.
Non,
c'est
non, pas,
pas
du
tout
tout.
L'objet,
mais c'est purement culture. On est carrément dans la culture là. Hein.
On est tout à fait d'accord. Alors, justement, on parlait de la vigne qui peut éventuellement arriver en Belgique, voire dans le nord de la France, voire en Belgique notamment, Bretagne. Enfin voilà, toutes ces contrées-là, parce que tu vas nous apprendre à tailler la vigne
c'est
en
ça.
Bio cette semaine. Hein.
Ouais,
c'est le sujet de la semaine, Eric.
Ouais, c'est ça, c'est le sujet parce que c'est assez simple à faire et ça permet de pouvoir utiliser un palissage que l'on a chez soi qui peut à la fois servir pour les pommiers, les poiriers, mais aussi pour la vigne, voire des petits fruits, quoi.
Alors, avant de parler de ça, bien sûr, un petit coup au tempo du jardin qui n'a pas changé, et puis bien sûr vos questions et réactions. Mais auparavant, tu parlais effectivement de la grogne des agriculteurs et on entend différents griefs qui sont évidemment à juste titre. L'idée n'est pas de prendre position
non, pas
comme
du tout.
Certains dans ce conflit. Chacun se fera son idée. Moi, je vais juste interroger une chose. Je suis tombé sur une séquence totalement surréaliste et avec ta proximité avec la LPO notamment, Eric, j'aimerais juste avoir une clarification là-dessus de professionnel, non pas que tu es, mais que tu côtoies. On est d'accord. Enfin, tu as un peu d'expérience quand même sur la gestion des oiseaux. Hier, je tombe sur une séquence à la radio où on fait parler des auditeurs et une personne se présentant comme un fils d'agriculteur, mais qui n'a pas repris, qui a loué ses terres à un agriculteur, se plaignait du fait qu'il ne pouvait pas tailler entre le 15 mars et le 15 juillet, Eric. C'est bien ça ?
Complètement. Enfin, un 15 mars, entre le 15 mars et fin juillet, oui.
Et fin juillet, pardon. Ça, c'est sur tout le territoire ou c'est...
C'est tout le territoire. Ça,
c'est
tout
le territoire. Et vlati pas que l'auditeur, effectivement, s'esclave de cette mesure en disant qu'il s'est fait alpaguer par son voisin, en lui disant qu'il fallait surtout pas tailler les à ce moment-là et qu'il allait avoir des ennuis si quelqu'un lui tombait dessus. Et là, le commentateur rebondit, je te vois sourire, tu as peut-être écouté cette séquence, le commentateur, le journaliste rebondit là-dessus, on dit « mais vous rendez compte, mesdames, messieurs, c'est absolument hallucinant, on interdit aux agriculteurs d'entretenir les haies du 15 mars à fin juillet ». Eric, ça a une raison ça?
Bah oui, c'est pour tout ce qui est refuge des oiseaux, hein, donc la nidification, ça c'est quand même important, sachant que l'oiseau en plus rend service, hein, ce qu'on appelle les services écosystémiques de la nature, pour lutter contre certains prédateurs en excès, notamment les insectes. Donc ça, c'est super important. Alors, bien sûr, ça, c'est très mal compris, en sachant qu'aujourd'hui, on peut embêter des communes, par exemple, sur certaines haies qui sont taillées à 1m20, 1m30. Eux, ils ne peuvent pas le faire, parce que la loi l'interdit entre le 15 mars et...
Mais est-ce que c'est... Pardon, mais juste pour qu'on comprenne, est-ce qu'en gros, nous, on a une vision de bobo dans nos bureaux, enfin, quoique, on jardine, toi et moi, et ceux qui nous écoutent nous jardinent. Vous qui êtes agriculteur, vous n'êtes pas d'accord, ou au contraire, vous êtes d'accord, ou même si vous n'êtes pas d'accord, écrivez-nous, parce que ça, franchement, ça nous intéresse. Non. Moi, je ne comprends pas, parce que, voilà, c'est cette petite musique qui monte, là, tout doucement, en disant, oui, vous rendez compte, les normes, machin. On parle juste de ça, juste là-dessus, sur la gestion des haies. Il y avait encore un reportage ce midi là-dessus, où on essaie de faire effectivement croire, mais... cette réglementation-là, tu le disais, c'est pour protéger le peu de biodiversité qui reste encore.
Oui.
Et je ne vois pas en quoi, alors pardon, mais je ne suis pas agriculteur, mais je ne vois pas en quoi c'est problématique, parce que l'objectif est, encore une fois, tu le disais, de ne pas bousiller toutes les mésanges qui restent encore. Quoi.
Oui, non, mais c'est surtout que ça, c'est important, sachant que dès qu'on va avoir des actions qui vont être plutôt, je veux dire, hivernales, ça sera 100 fois mieux que haute. Et d'ailleurs, ça va permettre d'améliorer la gestion des champêtres, hein, au lieu de le faire en pleine nidification, en plein florissement des plantes, et ça va aussi servir pour les butineurs, et voir, parce que si on limite la floraison, ça va limiter aussi la production de petits fruits sauvages.
Bien sûr.
Donc là, voilà, il y a des choses comme ça, il y a une espèce d'amalgame, et malheureusement, bon, sans faire de politique, parce que sinon on va avoir des foudres de guerre un peu partout, mais bon, voilà. C'est que ce qui m'embête aussi, c'est qu'il y a aujourd'hui, c'est pas en améliorant les aides et compagnie qu'on va améliorer le système agricole, mais c'est peut-être que la formation agricole ou l'auto-formation n'a pas été suffisante, jusqu'à présent, et peut-être que certains partis ou autres chambres ont fait qu'il n'y avait que vers un mot d'ordre, quoi. Et maintenant, tout le monde se plaint, quoi.
Et tout le monde se plaint. Donc c'est pas une vision de bobo de bureau comme on l'a entendu, parce qu'il y a aussi, encore une fois, cette musique qui monte là-dessus. C'est une vraie... Et encore une fois, vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit là, écrivez-nous, parce que franchement, ça m'intéresse. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette espèce d'opposition où certains, effectivement, témoins, on donne le micro, ils ont tout à fait le droit de parler, mais on leur dit, mais oui, je ne comprends pas, il y a toutes ces normes. Bon, ok, on sait qu'on est un pays de normes et qu'un multitude d'éléments à réfléchir, enfin qui sont à réfléchir peut-être et à revoir. C'est tout le sujet aussi des demandes. Mais voilà, je veux juste entendre là-dessus parce que, encore une fois, nous, simples mortels, entre guillemets, tu nous conseilles chaque année de ne pas tailler pendant cette période-là.
Bah oui. C'est qu'il y a une raison. De toute façon, ce qu'est dire, les meilleurs services et les moins chers, c'est quand même les services qui sont faits par la nature. Hein, ça s'appelle les services écosystémiques. Hein. C'est quand même les plus efficaces. C'est plus efficace. Que tout, comme améliorer la qualité du sol, et on sait que sur un engrais, des fois il y a 80% de l'engrais qui sont mis dans un sol qui est perdu, donc il n'y a pas de réalité. Donc le fait de pouvoir trouver des solutions immédiates et surtout là pour sauver le coût, et après sur du long terme pour améliorer la qualité des sols, moins de mettre de pesticides, c'est pas rien. Un agriculteur, et tout le monde me le dit, hein, dans le maraîchage, s'ils n'avaient pas à traiter, ils seraient contents, quoi. Donc, aidons-les à ne pas traiter, formons-les pour pas qu'ils traitent, ou moins, ou utiliser des produits qui coûtent moins cher aussi. Mmh. Et souvent, le produit qui coûte le moins cher, c'est celui qu'on n'utilise pas. Hein. Donc, c'est quand même ça. Et là, je crois qu'on ne va pas dans le bon sens. Franchement, on devrait plutôt revoir la formation, de les accompagnements. Tout le fric qu'on va mettre, autant de le mettre, peut-être dans la formation. Et on le sait très bien aussi, les aides, c'est pas une chose. Il y en a plein d'agriculteurs qui le disent. S'ils n'avaient pas besoin d'aide, ils préféraient ne pas vivre avec les aides.
Et non pas d'aide sous perfusion, notamment de la PAC. On est d'accord.
Et quand, c'est peut-être une mauvaise citation que je donne, parce que Nicolas Hulot n'a pas été forcément et pas forcément l'acteur idéal. Mais il avait eu une bonne idée quand même à un moment, c'était de dire que toutes les écoles. Où on nourrit les élèves, les étudiants et autres, au moins qu'on utilise les produits du monde agricole, uniquement, et de payer à la vraie valeur.
Français.
Donc il y a des choses comme ça qui me semblent réelles. Et pareil, nous, on est les premiers à dire, Brice et moi, on est les premiers à dire, vous avez bien été gentils, vous, les acteurs, le public, là, pendant le Covid, vous avez été voir les acteurs de proximité pour acheter des légumes et compagnie, ou du lait ou autre. Une fois que le Covid est terminé, tout le monde repart sur les prix les moins chers. Et souvent, les produits les moins chers, ce n'est pas forcément des produits français. Donc,
on s'est tapé de l'inflation quand même entre-temps. Donc voilà. Le discours n'est pas recevable pour celui qui gagne un SMIC. Hein.
Enfin, complètement. Mais,
on est d'accord aussi.
Voilà.
Mais bon.
Ouais. Voilà, mais peut-être les acteurs de proximité n'ont pas forcément des produits plus chers.
Au rayon justement de la justification économique d'un potager, au-delà du bonheur et du plaisir qu'il peut vous apporter, on travaille justement notamment avec Tom sur au final économiquement qu'est-ce que ça rapporte qu'est-ce que ça économise de cultiver un potager, potager, fruitier, etc. En gros, il ne s'agit pas d'aller forcément vers l'autonomie parce qu'il faut de la surface.
Non, il faut beaucoup de surface, il faut du savoir. Et par contre,
mais concrètement, ça permet d'économiser.
Et une belle complémentarité avec votre producteur, que vous allez acheter les carottes ou l'autre et ainsi de suite, ça va très bien. Et on sait très bien que le jardin ne fait jamais de concurrence aux producteurs. Au contraire, il favorise les acteurs locaux.
On est d'accord. Bien, en tout cas, un petit coup au tempo du jardin. Et juste pour terminer, avant de passer au tempo du jardin, l'agriculteur conventionnel n'est pas forcément le méchant garnement et le diable, parce qu'à l'époque, il a pris comme ça, on lui a aussi demandé après-guerre d'y aller. Et on va le redire. Et le bio n'est pas forcément le maraîcher bio n'est pas forcément le bobo perché sous son chapeau de paille qui laisse tout faire. Il y a des fois un espèce de schisme entre ces deux mondes.
J'ai l'impression que ça va s'opposer.
C'est parti pour. C'est évident que c'est parti pour. Rien que le débat là sur la question des haies, moi je voulais vraiment en parler avec toi aujourd'hui. Parce qu'on dit tout et n'importe quoi, et qu'au bout d'un moment, il y a quand même des choses, des normes qui font que, faut quand même le dire. On va juste rappeler quelques chiffres. Hein. La biodiversité s'est totalement effondrée. On trouve des polluants dans tous les sols, dans presque toute la flotte. Donc au bout d'un moment, c'est pas... Et puis, on a 24 degrés, je crois, à Perpignan, cette semaine.
Voilà. Il y a pas que le voilà, il y a tout le monde a une responsabilité là-dedans.
On est d'accord.
Donc, mais par contre, faut la nature, notre support de vie, je dirais, on doit quand même aussi travailler là-dessus.
Bien, un petit tempo au jardin avec une lune descendante favorable.
Oui, on va repartir sur la lune là parce que comme il y a les premiers semis qui vont avoir lieu prochainement, donc là, ça permet de redonner le tempo par rapport à la lune descendante ou ascendante. Hein. Voilà, on va recommencer jusqu'au mois de septembre-octobre. Et donc là, on en profite, hein, on est plein dans ce qu'on appelle le système de plantation, de taille, de fertilisation qui est favorable pendant une ligne descendante. Donc ça tombe bien, jusqu'au 2 février on peut le faire, sauf si le sol, bon le sol gelé là j'y crois plus, mais on sait jamais, bon, une fois en 4-5 jours ça peut modifier.
Et on peut avoir de la neige début février, Eric.
Par contre, un sol complètement détrempé, c'est quand même terrible. Donc là aujourd'hui, pareil, hein, attention au sol super détrempé, parce que là c'est vraiment de la boue, hein, c'est quand même terrible. Donc, on peut travailler vraiment sur les plantations, c'est ça qui est important, la taille, voilà, tout ce qui est en lien avec le sol. Et puis, commencer, je dirais, peut-être à réfléchir qu'à partir du 6 février, on peut commencer à faire les premiers semis pour ceux qui sont un peu pressés. Alors, ça peut être sous tunnel, mais ça peut être aussi à l'intérieur, on verra, pour les aubergines, les poivrons. Voilà, il y a pas mal de choses à faire comme ça.
Ouais, pas encore début février, Eric.
Oui, voilà. Alors, mais on peut commencer. Il y en a qui commencent fin janvier, hein, les aubergines. Hein, donc.
Ouais. Et puis, du coup, on bouture, on taille, on plante.
Ouais, c'est ça, voilà.
C'est ce qu'on disait. Rendez-vous évidemment sur notre blog avec tous les éléments. Alors là, c'est un peu un copier-coller. C'est ce qu'on disait, pareil.
Ouais, ça y est, à partir de la semaine, la fois d'après, on va être plus dans le concret.
On va commencer, voilà. On va vraiment commencer à remettre les mains dans le terreau, si je puis dire. Mon cher Eric, je te propose éventuellement, si tu en es d'accord, de passer aux questions de nos auditeurs et de nos auditrices. On va commencer par Mathieu qui nous a contacté sur contact@monjardinbio.com. Bonjour, comme d'habitude, un grand merci pour votre super podcast qui nous apprend énormément et tout ça dans la bonne humeur. Je planifie actuellement mes semis pour le potager 2024. Bon, on n'a pas fait exprès, tu vois. Chaque année, je greffe moi-même avec plus ou moins de succès mes pieds de tomates, aubergines et poivrons. Faut-il semer les porte-greffes et les greffons plutôt qu'un plant non greffé afin de compenser le retard dû à la prise de la greffe, ou est-ce que ça rattrapera son retard ?
Il faut toujours, de toute façon, quelle que soit la situation, il faut toujours qu'on ait un porte-greffe en avance par rapport au greffon. Voilà.
Tu peux juste nous préciser ce que c'est un plant greffé ?
Un plant greffé, c'est d'utiliser les capacités à un pied de tomate d'être souvent très vigoureux, ça peut être ça, ou indemne de maladie, par exemple. Et on va mettre une variété de tomates. Par contre, on n'aime pas forcément la tomate qui est dessus. On enlève pour avoir la petite tomate qui nous intéresse. On va greffer la même espèce, pour faire simple, sur ce plant, pour avoir le côté, qu'on aime de la pied de tomate, par exemple, ou de l'aubergine. Mais par contre, on va reprendre les caractéristiques du système racinaire, et c'est souvent un système racinaire qui permet de faire exploser le végétal pour avoir plus de matériel. Pour ça, souvent, il y a du tomate cerise, par exemple, qui sert comme porte-greffe. Quoi.
Alors, on fait le point avec le dossier de la semaine, hein, la taille guyot de la vigne. On va rappeler qu'en Alsace, tout est greffé.
Tout est greffé.
Voilà, on est sur des porte-greffes, les fameux Américains qui ont sauvé le vignoble de la crise du phylloxéra. Donc, c'est pas quand vous avez un pied de Gewürztraminer, c'est pas le Gewürztraminer jusqu'en bas des racines,
non.
C'est greffé sur un porte-greffe.
C'est un porte-greffe
qui est justement résistant.
Voilà, même si aujourd'hui, individuellement, vous pouvez directement d'avoir des plants sur propres racines, mais le professionnel ne peut pas se permettre.
Oui, et je crois que c'est même interdit en AOC, il me semble.
Tout à fait.
Ce qu'on appelle du franc de pied. À vérifier. Alors justement, Mathieu nous dit, donc là, en gros, tu viens de répondre. Nous partageons depuis que nous avons déménagé le potager du grand-père de mon conjoint, 2000 m2, hein, ça nous change du potager partagé de 25 m2 en ville. Mais y a-t-il intérêt à continuer d'utiliser des plants greffé, vu que nous ne pouvons maintenant planter autant de pieds que nous souhaitons. Et la particularité est que nous habitons aussi dans un village de montagne à 1000 mètres d'altitude, avec une saison de culture forcément plus courte. Ouais.
Moi, je dirais non, c'est pas nécessaire. Hein. Il faut savoir que l'intérêt aussi des pieds de tomates, c'est d'autofécondation. Donc, ça veut dire que les graines qu'on va récupérer correspondent exactement à la variété dont on a récolté les graines. Donc, aussi, le porte-greffe, c'est ça. Il faut savoir que souvent quand on met un porte-greffe, c'est pour avoir la variété que l'on souhaite. Là, comme c'est de l'autofécondation, bah autant planter sur les propres racines. Je dirais même, ce qui peut être intéressant, c'est de récolter, surtout quand on est dans des situations particulières, au-dessus de 500 mètres, dans des sols particuliers et autres. Le fait de récupérer ses propres graines va faire qu'on va sélectionner au bout d'un certain temps les graines qui correspondent à notre terroir. Donc je dirais qu'à l'auditeur, ben, faut mieux qu'il aille dans ce sens-là.
Donc là, ce qu'on peut, là, ce qu'on peut se dire, c'est que vu que Mathieu a beaucoup de place,
Oui.
eh ben, tant qu'à faire, allez-y, quoi.
Oui, voilà,
C'est
c'est
ça,
ça.
l'idée.
Voilà. Par contre, si c'est lui qui les greffe lui-même, il y a ce petit plaisir de la greffe, hein, que je
Ouais,
conseille
je
à tout le
connaissais
monde,
pas.
voilà, et qui fait que ça fait, voilà, ça fait aussi plaisir de faire ça, quoi. Il peut continuer, mais je dirais, c'est pas à peine qu'il se casse trop la tête, au moins qu'il le mette sur ses propres racines, quoi.
Bon, très bien.
Alors,
Voilà, Marc.
dans la première étape, ce qui pourrait être intéressant, c'est suite au déménagement d'aller rencontrer des jardiniers à proximité. Et justement, de peut-être récupérer des graines que les uns et les autres ont, qu'ils ont sélectionnées involontairement ou volontairement, à force de récupérer les graines de leurs propres pieds pour utiliser ces souches de graines, quoi.
Bien. Mathieu nous remerciait d'ailleurs de nos réponses. On va passer à Valérie qui nous dit, fidèle auditrice depuis 2 ans de votre podcast que j'adore et que je recommande, je me décide à poster ma première question car là même en appliquant tous vos conseils, je ne sais pas comment prendre un problème pour notre tout nouveau jardin. Et à chaque fois que je vais là-bas, je me demande mais qu'est-ce qu'aurait proposé Eric? Alors, janvier 2024, je me lance et j'ose poster une question. Nous venons d'emménager dans un coin magique du Morvan en Bourgogne à 480 mètres d'altitude. Nous avons notamment à près de 5000 mètres carrés que nous comptons aménager en jardin promenade. En gros, nous allons définir 3-4 îlots, nous planterons 2 à 3 fruitiers, des arbustes à petits fruits, des vivaces, des fleurs annuelles et un espace d'observation ou de repos type banc ou espace plat pour se poser ou un petit bassin, etc., etc. Chaque année, nous tournerons des chemins aléatoirement pour reprendre les îlots, pour rejoindre les îlots et le reste du pré restera en prairie sauvage, donc avec un roulement annuel. Voilà en gros le projet général. Bon là déjà t'as approuvé, Eric,
Oui,
j'imagine.
c'est super, hein, c'est génial, hein.
Un peu avant le bas du pré, le pré est en pente. J'espère que vous le voyez sur les photos. Alors effectivement, elle nous a envoyé des photos. Hein. On voit un pré en pente. En
Ouais.
l'occurrence, je vous le décris, chers auditeurs et chères auditrices. J'espère que. Donc sur la gauche, pardon, exposition nord-ouest, nous avons un ancien tas. Auquel et sur lequel pardon, nos prédécesseurs brûlaient leurs déchets. Alors, le tas restant de cendres faisait une envergure d'environ 3 sur 4 mètres, évidemment. Et en gros, elle a déjà évacué pas mal de choses pendant des années. Hein, elle imagine qu'ils ont cramé, parce que c'est le mot, hein, circuit électrique, meubles, portes, plastique,
Ah ouais, quand
annuaire,
même, ouais.
etc., etc. En gros, elle a récupéré des espèces de cadavres de plastique calcinés. C'est pas très beau à voir. On va devoir faire avec ce tas et compter sur la nature et le temps pour dépolluer, mais ceci m'amène à des questions. Quelles plantes privilégiées à planter autour de ce tas pour aider, voire accélérer la dépollution du terrain? Première question.
Alors, disons que si c'est des plantes annuelles, je dirais tout peut marcher, mais est-ce se poser la question si cet espace qui risque d'être quand même peut-être être pollué, voilà. Et donc si on met des légumes, on peut peut-être récupérer des métaux lourds dans les plantes. Donc ça c'est voilà, je sais pas oui ou non peut-être. Mais ce qui pourrait être intéressant, c'est au lieu d'avoir des plantes dites nourricières, on pourrait avoir des plantes simplement pour faire de la végétalisation. Et s'il y a
Voilà, donc un
peut-être un
couvre-sol, quoi.
endroit, voilà, s'il y a un endroit où on pourrait mettre quelque chose, bah, on pourrait mettre de la haie champêtre par exemple, hein. Voilà. Ou une situation qui peut être sympathique, c'est comme c'était un lieu d'accumulation, bah peut-être d'accumuler des branches, des choses comme ça, pour faire une haie sèche. Mais la vraie haie sèche type Benjess, c'est-à-dire on met des branches dessus, une biodiversité va s'installer et dedans va pousser ici et là des arbustes qui sont issus des caches voilà, des petits mammifères qui viennent des haies à proximité, quoi.
Eric, pour qu'on soit clair, Valérie peut quand même enlever le maximum
Ah
de
bah oui,
déchets,
ah
quoi.
bah
Ouais,
oui, voilà.
on est
Voilà.
d'accord.
Mais ce qui est toujours un peu embêtant, c'est les micro-déchets, quoi. Et donc, peut-être qu'il y a des métaux lourds, voilà, des choses comme ça qui fait que, bah, quand on va mettre des plantes dessus, en sachant que bon, les légumes, fruits, c'est pas ceux qui prélèvent le plus, mais quand même, peut-être que ce sera impropre à la consommation parce qu'il y a peut-être une accumulation. Mais après, il y a accumulation et commission. Accumulation, c'est-à-dire que ce n'était pas une usine de peinture ou d'hydrocarbures qui était.
Oui, c'est ça. Oui, c'était ponctuellement, mais il y a un risque quand même. On va juste repréciser que la dépollution au niveau des plantes, puisqu'on travaille avec un laboratoire qui nous permet de commercialiser effectivement des analyses des polluants du sol, notamment sur les métaux lourds, les protocoles de dépollution, ce n'est pas je plante et je laisse. Je plante, j'arrache, je retraite le végétal qui, lui, très clairement, va terminer certainement en déchetterie spécialisée. Enfin voilà, c'est pas on sème une prairie et puis finalement il y a une pollution. Ouais, ouais. C'est pas du tout ça. On prélève encore une fois et on détruit surtout le végétal qui a permis de régénérer quoi.
C'est pour ça que s'il y avait une haie champêtre à mettre peut-être ou une peut-être que c'est cet endroit-là pour.
C'est à cet endroit-là. Voilà. On est d'accord. Dans l'optique où nous aurions nos îlots de fruitiers en amont du tas, à combien de mètres peut-on raisonnablement l'installer pour être sûr que les racines n'aillent pas puiser dans l'espace pollué?
Là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué parce que tout dépend de la nature du sol. Mais bon, voilà, s'il y a une dizaine de mètres, ça, à mon avis, il n'y a pas trop de problème. Et puis là aussi, je suppose que la personne n'a pas brûlé tous les déchets du village ou du terroir, quoi. Hein. Donc, c'est peut-être.
C'est pas une déchetterie non plus.
C'est pas une déchetterie. Bon, voilà.
On est d'accord. Voilà.
Souvent, des fois, les analyses de sol, la première analyse de sol qu'il faut faire, c'est l'analyse de l'historique du sol. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a eu à cet endroit-là et combien de temps, quoi. C'est ça le but du jeu. Des fois, on me dit, est-ce que cet endroit-là, il faut faire des analyses de sol? Alors, je dis, pourquoi pas? Quand c'est une école, choses comme ça, oui, je dis oui. Mais sinon, des fois, si on dit qu'avant, c'était le presbytère, c'était un parc et compagnie, bon, ça va. Par contre, s'il y avait une entreprise ou à proximité d'une entreprise, voilà, faut peut-être vérifier la nature du sol. Parce qu'un sol peut être très végétalisé et impropre, entre guillemets, pour la plantation de légumes ou de fruits qui va être destiné à la consommation.
Il y a un autre point aussi que je voulais évidemment relever par rapport à la distance. Eric, tu disais, ça dépend aussi si en pente, hein, forcément.
Oui, voilà.
C'est plus compliqué qu'en amont aussi.
Oui, c'est complètement. Et puis, des fois, c'est aussi par rapport à la situation du sol. C'est toujours très compliqué. De toute façon, s'il y a un doute, il y a analyse qui me semble important, quoi.
Voilà, donc au cas où, effectivement, de faire analyser ça, Valérie, je l'ai dit tout à l'heure, on propose aussi des analyses sur les métaux lourds, notamment. Enfin, question subsidiaire et qui, je ne vous le cache pas, m'inquiète, quel impact de la pollution des plantes plantées autour, donc on comprend, qui vont être butinées sur tout le reste du jardin, et donc celle de nos fruitiers.
Compliqué. Disons que compliqué. Alors, je n'ai pas assez de connaissances personnelles pour savoir si une plante qui contient beaucoup de métaux lourds au niveau du pollen et compagnie, peut-être, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Voilà, mais après, c'est une histoire aussi de dilution qui est importante. Moi, je le vois sur des déchets organiques et quand on fait des analyses de déchets, en fin de compte, il peut y avoir plein de végétaux où la quantité de métaux lourds est plus importante, parce que vous oubliez que les plantes captent des métaux lourds dans le sol parce que suite à leur système racinaire. Et souvent, ce qui se passe, c'est que quand c'est mélangé avec d'autres déchets qui sont beaucoup moins sensibles et beaucoup moins, ils sont plus indemnes de métaux lourds, ça fait ce qu'on appelle un mélange. C'est comme l'eau que vous buvez. Quand l'eau est pas bonne, on va le mélanger avec une bonne eau. C'est ce qu'on appelle de la dilution.
Chez nous.
C'était un peu le principe à un moment du compost urbain où on comprenait pas que c'était des composts de poubelles. Mais ça marchait tout simplement parce qu'on le mélangeait avec des déchets verts ça permettait de faire une dilution.
De diluer comme peut l'être un épandage aujourd'hui. On revient sur ces histoires de plans d'épandage, mais les plans d'épandage, encore une fois, ce qu'on dit là est spécifique à chaque territoire, bien sûr. Et je ne suis pas technicien et je ne crois pas non plus là-dessus, mais la question du plan d'épandage, quand on vide des fosses alisées et qu'on ne peut pas entre telle et telle période, c'est aussi pour éviter une surabondance de nitrates derrière dans les eaux souterraines, Eric.
C'est ça, c'est complètement.
L'idée, c'est vraiment de diluer dans le milieu naturel le plus possible et d'essayer et d'éviter d'avoir trop de rejets. C'est aussi pour ça.
Voilà. De toute façon, par exemple, aujourd'hui, dans les plantes qu'on a, ce qu'on appelle de gestion des eaux pluviales, le sol est considéré comme une zone justement pour nettoyer la flotte, quoi.
Ouais. On est d'accord. Et là, c'est NIR. Valérie termine son propos par un grand merci pour vos réponses qui nous aideront à mieux définir le projet. Plus généralement, un grand merci pour votre podcast où j'apprends tellement, un vrai plaisir. Donc, encore une fois, Valérie, Voilà un petit peu les distances. Il y a un point aussi, Eric, je le disais, Eric le dit souvent, allez vous renseigner potentiellement peut-être chez les voisins.
Oui.
Tiens, au fait, mon ancien voisin, votre ancien voisin, il brûlait quoi? Oh, bah, vous savez, ouais, c'était des câbles électriques parce que, oh, vous savez, c'était des bidons parce que, etc. etc.
Ouais.
Ça permet aussi
ouais,
un petit peu.
Mais l'historique, c'est super important. Quoi.
C'est important aussi. Rapide petit coucou à Mickaël. Donc je l'en parlais la semaine dernière sur la question du volume sonore. J'ai essayé de le retraiter un petit peu. Le problème, c'est que c'est pas aussi simple que ça parce que ça fait des gros fichiers et du coup notre plateforme qui nous permet de diffuser ce podcast rame un peu. Donc je continue, Mickaël, de tester. Mais on a envoyé deux liens. Je vais essayer le deuxième. Mais en tout cas, le premier, c'est pas très concluant via Adobe. Voilà, petit. Je referme la parenthèse. En tout cas, merci beaucoup. Mon cher Eric, on va passer à Marc qui nous dit merci pour votre podcast que j'ai découvert grâce à Deezer, que j'écoute tous les vendredis, tous les week-ends pardon, depuis presque un an. Avec ma compagne, nous avons acheté à la fin du joli mois de mai une maison avec jardin situé dans la Marne, donc on est dans le 51, hein, c'est dans la Champagne. Ouais. Le jardin avait été aménagé dans les années 80-90, puis c'est un peu assoupi. Les tuyaux en ont profité pour s'épanouir et ou mourir. Hein. Ils sont un peu là. Et,
ouais, entre deux eaux.
Voilà, entre deux eaux. Nous avons environ 200 mètres de haies disposées sur une différente partie du jardin, dont un bon tiers est déjà sec. Notre objectif est tous les supprimer, réutiliser les troncs pour y faire courir du lierre ou d'autres plantes grimpantes. Bon, ça, Eric, c'est à peu près ce que tu proposes.
Ouais, voilà, simple. Ou les couper à ras et planter à côté. Hein.
Ou couper à ras. Je commence par ceux qui nous empêchent d'admirer un sublime paysage composé de vignes, champs et au loin de marais. Et j'en viens à ma première question. Étant partisan du moindre effort, j'imaginais conserver les troncs d'arbustes et m'en servir comme piquet pour créer une haie sèche. Certains ayant des troncs doubles, j'en ai profité pour intercaler et mettre des branches coupées, un peu la haie de Ben Jess, hein, mais la largeur est-elle suffisante pour une telle haie?
Oui, oui, complètement. Même, j'ai même des haies qui ont été faites avec des piquets, j'en ai fait 40 cm, 50 cm.
Il nous a envoyé une photo, effectivement, ça fait une belle haie sèche.
En sachant que la vraie haie de Ben Jess qui va permettre le fait qu'il y a des nouvelles. Enfin, la biodiversité sauvage puisse pousser, il faut que ça soit le plus large possible. Mmh. Plus on va diminuer la distance, plus ça sera plutôt un mur, entre guillemets, voilà, de déchets végétaux secs. Voilà.
Mais ce qui n'empêche pas après d'être colonisé de toute façon.
Bah après, on peut le faire coloniser soi-même, hein, je veux dire, puis ça va se tasser. Et puis voilà, alors après, on peut jouer aussi sur des secteurs, c'est-à-dire une partie, on fait une haie sèche, voilà, on accumule, et une autre partie, on coupe les tuyas à ras, et on fait des plantations où on laisse se développer. Comme ça fait un mix. D'ailleurs, même quand je propose de créer une haie champêche, je dis toujours aux gens, voilà, c'est toujours intéressant d'avoir des percées dans le paysage, parce que faut pas oublier que c'est des fois un peu embêtant d'avoir trop de végétaux, parce que des fois le point de vue, on l'a plus. Le fait de créer des fois des percées, c'est pas mal.
Bien. Je reviens, pardon. Peut-on utiliser des branchages du tuya comme matière pour une telle haie? Alors Eric, je l'ai mis à l'écran pour le coup.
Disons, faut pas qu'il y en ait trop, quoi, parce que sinon ça va pas se décomposer. Parce que l'intérêt d'une haie sèche, c'est que ça décompose. Plus on va mettre du tuya ou ce type de plante imputrescible, plus le tuya va rester tel quel. Sauf si on veut que le tuya ne bouge pas, quoi. Ça reste un mur végétal, plus que tout.
Lorsque je regarde la terre où je la manipule, je constate que les branches les plus basses se sont décomposées et créent un humus, mais je ne vois pas de vers de terre ou d'autres insectes. Est-ce que c'est normal?
Non, c'est pas très grave. Hein. De toute façon, moi, ce que je conseille toujours quand on a une très grande distance, parce que là, 200 mètres, c'est pas rien, hein, c'est quand même une belle distance, c'est de faire une plantation d'arbustes, là, par exemple, au printemps, et on voit la réaction.
D'accord. Pour voir si effectivement ça prend ou pas.
Voilà, mais à mon avis, il n'y a aucun risque. Hein.
Le fait qu'il n'y ait pas de vers de terre?
Oui, c'est des fois dans un compost, il n'y a pas de vers de terre, alors que le compost est bon, quoi.
Bon, ça c'est une bonne réponse. En l'occurrence, peux-je imaginer sans faire d'apport ou amender, planter devant justement cette haie, hein, des groseilliers, des framboisiers, des myrtilles, des cassissiers, des rhododendrons, des bruyères et des camélias?
Alors après, c'est pas parce que l'endroit était un peu acide, parce qu'on avait des tuyas, que le rhodo, l'acidité soit suffisant. Il faut faire une analyse de sol pour savoir qualifier le pH.
Parce
qu'il ne faut pas oublier qu'après, il y aura une pression importante de l'autre partie du terrain qui n'est pas la haie. Et donc, souvent, c'est trop calcaire pour le rhododendron et compagnie.
Après, pour l'analyse de sol, hein, les bandelettes, hein, ça vaut même pas 10 euros. Hein.
Voilà, c'est ça, c'est pas très cher.
Ça ne vaut même pas 10 euros, donc c'est simple.
Voilà, surtout, il faut qualifier le type de sol qui est bien à 1 mètre, 1 mètre 50, voire 2 mètres de là, et pour voir est-ce que la pression calcaire est importante ou pas.
Bien. Est-ce que je peux le planter à une distance de 50 cm de là, ou est-ce
oui,
que je dois
sans...
faire plus d'écart?
Non, je veux dire, des petits fruits, il n'y a pas de souci, quoi.
Allez. Et est-ce que j'oserais poser une deuxième question? Oui, la maison est dans son jus, nous allons avoir deux baignoires à évacuer, des fenêtres, des tapis, de la moquette. Oui, mon Dieu, bon courage. Est-il possible d'imaginer d'utiliser une ou deux baignoires pour les transformer en mare ou en bassin? Alors, pour être franc, je bloque sur le fait que tout le monde me conseille de créer une pente douce d'un côté, au moins du bassin, et je ne vois pas comment procéder. Si vous avez des suggestions, je serais preneur. Pour un bassin plus traditionnel avec du liner, peut-on envisager de remplacer un géotextile par une récupération de vieux tapis ou de vieilles moquettes?
Non.
Ok, ça se dégrade tôt, hein, c'est pas fait pour ça.
Bah, le truc, c'est le... des fois, quand c'est du tissu, ça va, mais le problème, c'est le plastique qui est en dessous, quoi.
D'accord.
C'est parce que des fois, ça va se, voilà, ça va se désquamer, et puis après, on en a plein dans le jardin, et ça fait des micro-polluants qu'on voit pas.
Qu'on voit pas. Par contre, la baignoire, qui peut être transformée en bassine, en mare, c'est un petit...
Bah, disons, bon, disons que c'est pratique pour des fois pour que l'eau se réchauffe quand, avant d'arroser, quoi.
Tu préfères comme ça?
Ouais, c'est mieux comme ça. Alors après, en mettant pour éviter les moustiques, hein, de vraiment mettre un filet anti-insecte dessus. Parce que là,
d'accord,
c'est une vraie zone à moustiques. Hein.
Mais alors, pousse, pourquoi? Parce que c'est trop petit?
Oui, c'est pas... oui, parce qu'il n'y a pas de vie dedans.
Ouais.
Et puis, on sait très bien que si par exemple, c'est des zones à moustiques, comme à peu près l'ensemble de la France aujourd'hui, ben là, c'est là qu'ils vont se développer plus que dans une mare où il y a une forte activité de la biodiversité.
Et on rappelle, ta mare idéale, c'est quoi? 3 mètres sur 3, je crois.
Ouais, enfin, voilà, mais le principal,
minimum,
c'est que, voilà, il faut qu'il y a les bords qui jouent. Il y a les, quand je dis les bords, c'est-à-dire qu'il y a de la biodiversité sur les bords avec la faune, la flore. Mais une bassine, enfin une baignoire.
Une baignoire, ouais.
C'est une bassine, quoi. Hein, donc,
bon. Donc voilà, Marc, en l'occurrence, ouais, l'idée, c'est peut-être de gratter sur un trou peut-être un peu plus grand et de laisser la bassine ou la baignoire, pardon, pour réchauffer l'eau. Mais encore une fois, en faisant attention à la prolifération des moustiques.
Ouais.
C'est vrai que ne serait-ce que la récupération d'eau de pluie, il n'y a pas beaucoup qui rentrent dans une baignoire, mais sur un petit abri ou un petit, une serre, ça peut déjà faire un volume intéressant.
Tout à fait.
On est d'accord. Eric, est-ce que tu vois mon écran?
Pas bien.
Pas bien. Ok.
Non.
Tu vois pas le point de greffe là que je t'ai envoyé?
Non, je vois une espèce de canapé orange. C'est assez surprenant.
Tu vois un canapé orange?
Ouais.
C'est pas, non, du tout ce que
sachant,
dit Eric.
En sachant que j'ai bu de l'eau, mais c'est assez. Je, dis,
oh là là,
je me suis dit, mais pourquoi Brice m'envoie une espèce de canapé orange?
Bon. Alors je vais essayer de le faire autrement. Donc bravo à vous pour votre podcast. Il s'agit de Charles que j'écoute avec grande attention toutes les semaines. J'habite en Belgique et j'ai une question à poser à propos d'un abricotier pastis. J'ai greffé sur un porte-greffe faible.
Mm-hmm.
J'ignore l'essence du porte-greffe. Il a été planté en automne 2021. Il a malheureusement dû être déplacé quelques mois après.
Ouais.
Printemps 2022, toute la couronne au-dessus du point de greffe était morte. Les racines ayant sans doute été abîmées lors du déplantage. Une nouvelle pousse repartant juste au-dessus du point de greffe. J'ai coupé toute la partie morte en espérant que l'abricotier survive.
Oui.
Mais l'abricotier atteint à présent plus de 3 mètres de haut. Le problème, c'est qu'il file, il file, il file vers le haut avec une seule branche.
Oui.
Et il ne crée pas vraiment de charpentière.
Oui.
Alors, que dois-je faire? Raccourcir cette grande branche qui part vers le haut ou la laisser faire? Et si je la coupe, à quelle hauteur?
Alors,
la photo,
le...
je la décris pour les auditeurs. En gros, il y a à peu près un point de greffe à un tiers du, de la grande tige.
Ouais. Alors, il faut espérer que cette tige qui pousse soit vraiment une pousse qui est issue du greffage. Parce que des fois, il y a tellement un espèce de millimélo que ça peut être une pousse qui est issue du porte-greffe.
Ok.
Donc voilà. Bon, après, voilà, ça peut, c'est un peu la chance. Sinon, c'est normal. Hein, c'est la pousse normale d'un végétal. Hein, si on le laisse pousser, il va tout droit. Hein.
Okay.
Et nous, pour faire ce qu'on appelle une espèce de couronne, c'est-à-dire de créer plusieurs charpentières pour pouvoir diminuer la hauteur de l'arbre naturellement, bah là, c'est simple. Hein, au-dessus de son point de greffe, il calcule à peu près 5 à 10 yeux, quoi, pour faire simple, et il coupe.
Mm-hmm. Tout simplement.
Voilà. Et à partir de là, il va sélectionner des charpentières.
Et ça repartira.
Oui.
Bon, bah voilà, Charles, en tout cas, longue vie à l'ancien fort, nous dit Charles, et puis bah, bon courage avec cet abricotier. Je te propose de faire un coucou à Valérie qui nous dit bonjour de Californie, bonne année à tous,
oui,
en vous souhaitant bonheur et succès à Brice et Eric dans toutes vos entreprises.
Merci, hein.
voyez quand même que vous avez bien vendu la mèche dans un podcast précédent, 14 février. Quelques retours d'expérience et une question s'il y a le temps. D'abord sur le botrytis et sur l'oïdium, sur les
Ouais.
raisins blancs de table.
Ouais.
C'est la toute première question que je vous avais posée en novembre 2021 et j'ai bien écouté vos réponses. Au cas de Valar, il y a 2 semaines, j'ai 2 pieds malades tous les ans, un muscat blanc et un
Ouais.
muscat et un autre blanc européen. Et le troisième pied, une espèce endémique américaine, du Concorde rouge, est toujours super productif. Mais cette année, j'ai fait un traitement au cuivre, point à la ligne, et j'étendrai une bâche au pied pour
Ouais,
protéger la terre des
exactement.
coulures de bouillie bordelaise. C'est ce qu'on disait.
C'est super.
Avec toutes les mesures prises depuis 2021, j'ai difficilement récolté l'an
Ouais.
dernier 3 ou 4 grappes de raisin blanc muscat avant pourriture complète, et pourtant je n'ai pas plus d'arrosage au pied pendant la véraison. Enfin, j'ai plus d'arrosage, pardon. J'ai un paillage de feuilles en hiver, pardon, d'aiguilles sèches de pin en été, et j'ai expérimenté. Hein, j'ai laissé un pied bien aéré, je l'ai laissé l'autre vagabonder avec ses nouvelles tiges. J'ai laissé des grappes exposées au soleil, d'autres ombragées, aucun effet. Je suis en train de les tailler, j'en profite pour enlever quelques branches emmêlées et espacer les branches restantes, et on verra si ça aide. J'ai pas essayé le purin de feuilles à prendre sur le pied sain comme suggéré par Eric. C'est bien embêtant ce botrytis. En dehors du raisin, Concorde, il n'y a pas de raisin, il n'y a pas de bon raisin dans le commerce aux
Ouais.
USA, que des gros grains sucrés sans intérêt. Là, tu approuves là, ce que nous dit
Oui,
Valérie.
complètement.
On
C'est
est.
après la situation, on le sait très bien. Il y a des situations un peu plus humides, même si on est en secteur sec, hein, sûrement comme la Californie, mais il y a peut-être des situations qui lui plaît pas. Donc des fois, il est plus malade qu'autre chose. De toute façon, tout ce qui va être le blanc, les maladies et compagnie, c'est souvent le résultat que le végétal se trouve pas forcément au bon endroit, entre guillemets. Et surtout, comme pour la vigne, bah, une vigne, en principe, c'est fait pour avoir des sarments qui font des longueurs et des longueurs, hein, des mètres et des mètres. Et comme c'est un pied qu'on restreint, globalement, bah, le pied ne peut pas s'exprimer, donc il est stressé, donc il est mal. Il faut savoir que la vigne, c'est quand même un des arbustes le plus traité, quoi.
Le marc de café au jardin, même en petite quantité mélangée à
Ouais.
la terre, ça n'a jamais bien marché pour moi. Ça a retardé ou arrêté le développement de mes plantes. Et quant au godet de semences, mauvais développement des plantules, et j'y mets un tout petit peu de marc. Je ne l'utilise donc plus que dans mon compost ou sur des paillages
Ouais.
épais. Mais j'ai vu des expériences qui semblent sérieuses sur YouTube, avec des comparaisons avec et sans marc de café. Et des explications sur la composition chimique qui semblent confirmer les risques de sinon composté. Idem avec le pipi,
Oui.
j'en mets principalement sur mon tas de compost, sur les paillages et sur certaines plantes, mais très 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 diluées.
C'est ça. De toute façon, il faut savoir que les déchets bruts, entre guillemets, mais qui sont très puissants dans leur domaine, hein, voilà, l'urine, ça peut être aussi du déchet de fientes de poule et compagnie. Souvent, ce qui peut être intéressant, c'est de passer par le compostage.
OK.
Ça, c'est le top. En sachant que moi, je ne suis pas pour le compostage globalement quand on a des déchets végétaux. Mais quand on a des déchets spécifiques, autant passer par le compostage parce que cette usine, je dirais, va modifier et va assainir et va spécialiser un petit peu la qualité du compost qu'on va obtenir.
Question sur le feijoa pour Eric.
Ouais.
J'ai bien compris qu'il en faut deux pour avoir une bonne
Oui.
pollinisation, mais est-ce qu'un seul pourrait quand même produire une quantité intéressante pour une personne, ou est-ce que la production serait trop anecdotique?
Ça, j'ai pas de réponse.
Ok, j'ai beaucoup d'insectes
J'ai pas de réponse.
pollinisateurs.
J'ai pas de voilà de particularité, mais on sait souvent que le fait qu'il y a une pollinisation croisée est quand même favorable.
J'ai beaucoup d'insectes pollinisateurs, mais est-ce qu'une pollinisation manuelle au pinceau pourrait aider avec un seul
Non,
spécimen?
c'est
Je
du
sais
boulot,
pas.
ça. C'est pas.
Bon,
Je suis pas vraiment le
allez.
spécialiste du feijoa, quoi.
On va terminer, et pardon pour les autres, rendez-vous la semaine prochaine, hein, bien sûr, avec Lise qui nous dit tout d'abord un très grand merci à vous pour vos podcasts instructifs, joyeux et très complets. J'ai 2 questions pour vous. Nous avons dans notre jardin un bassin maçonné d'environ 10 mètres
Ouais.
cubes, donc 10 000 litres, hein, on
Ouais, c'est pas
va,
mal.
voilà,
C'est pas
c'est
mal.
beaucoup. Avec poissons, c'est une piscine de trucs.
Ouais.
Hein, avec poissons, comment peut-on favoriser la biodiversité malgré la présence de poissons qui sont donc des carpes koi et des poissons rouges?
Bah, le problème du bassin, je veux dire, si, enfin, le bassin voilà, qui fait piscine, hein, pour faire simple, c'est vraiment très pratique, hein, parce que c'est voilà, c'est clair, il n'y a pas besoin de mettre une bâche et compagnie. Par contre, souvent dans ces bassins n'ont pas été créées différentes zones, différents niveaux pour installer des plantes différentes. Donc,
Donc en
ce
gros,
qui est.
ça descend tout droit, quoi. C'est ça
Ça va
le
tout droit,
risque?
donc
Ouais.
voilà. Donc, des fois, l'intérêt, c'est d'y fixer des paniers, voilà, quand même, déjà des plantes de profondeur ou des plantes qui vont. Alors, je connais pas, bon, c'est 10 mètres cubes, mais je vois pas à peu près la profondeur du bassin. De fait de mettre des plantes de, je dirais, de pleine eau, c'est déjà super intéressant. Et pourquoi pas aménager sur un côté, peut-être cimenter si c'est possible, ou d'installer voilà, quelque chose pour mettre dans le bassin, une zone qui pourrait faire un bac surélevé. C'est-à-dire, on pourrait, ça m'a déjà arrivé sur des surfaces un peu moins profondes, peut-être, je connais pas vraiment dimension, c'est de prendre deux bacs, un bac à l'envers et un bac à l'endroit, hein, donc qui va permettre de soulever le premier bac et de mettre de la terre dedans de manière à faire un niveau, quoi. C'est de créer des niveaux, ça c'est top.
Ok. Voilà. L'idée, c'est en tout cas de les remonter et d'avoir différentes strates. C'est ce que tu disais il y a un instant.
Oui.
Autre question, est-ce que le fait de, comment dire, le fait peut-être d'accrocher en bordure, alors après, il faut trouver un système de
fixation. Oui, c'est ça.
Mais soit l'accrocher en bordure, soit si ce n'est pas trop profond, éventuellement, je ne sais pas, moi, mais qu'est-ce qu'on peut immerger pour remonter des aglos? C'est peut-être pas forcément une bonne idée, Eric.
Pourquoi pas, hein. De toute façon, il y a eu des aglos, il y a des aglos. Donc, globalement, est-ce que ça sera un peu comme faire dans une piscine, pour faire simple, un endroit, des fois, où il y a des marches pour descendre.
Bah, ouais,
là,
c'est ça.
Ça serait super, ouais. Quoi. Et après, bon. De mettre dessus des... Je dirais des paniers, on peut mettre différentes plantes en fonction de leur possibilité d'être immergées ou pas, quoi.
Nous sommes au sud de la région parisienne avec un terrain argileux et au fond de notre jardin, nous avons acheté une bande de terrain assez étroite d'environ 4 mètres sur laquelle nous souhaitons mettre une culture et si possible des plantations. La parcelle sera ensuite notre potager et la clôture sera au sud de celle-ci. Avez-vous en tête des plantations possibles pour atteindre 1,80 m à 2 m, mais sans prendre beaucoup d'épaisseur, moins de 50 cm, et persistante en exposition ensoleillée? Je pensais faire courir sinon sur le grillage une liane à feuillage persistant, mais est-ce qu'il vaut mieux la faire courir sur le grillage de clôture ou directement sur des fils tendus en parallèle du grillage?
Bah, disons que quand on a peu d'espace, je le conseille toujours, c'est d'avoir un grillage assez épais et de tresser du lierre, hein, c'est quand même pratique.
Okay.
Quand on est vraiment limité en dessous de 50 cm, hein, des fois, c'est vraiment la façon, en sachant qu'il faut qu'on ait une possibilité d'aller de l'autre côté, alors des fois ça peut être le voisin, pour pouvoir retailler par exemple quand c'est du lierre grimpant, quoi.
Okay.
Là, c'est vraiment pratique. Sinon, ce qu'il y a possibilité de faire, c'est un mixte, hein, c'est-à-dire ici et là de mettre un grillage avec du lierre, et entre par exemple en laisser 2-3 mètres, de mettre... des petits fruits, de mettre même peut-être des pommiers bastiges, voilà. Mais comme on avait parlé de plantes persistantes, à mon avis, il y a besoin que la zone, il y ait moins de lumière, ou pas de lumière, mais enfin qu'on ne soit pas visible de l'extérieur, que ce soit un protège-vue, je dirais.
Ouais.
Ça, c'est souvent les 50 cm, c'est vraiment le minimum des minimums pour avoir un espace... je dirais, avec les voisins. Mais il y a possibilité, par exemple, sur des plantes, de pouvoir les tailler, je dirais, un peu plus étroitement, quoi.
Bien.
Mais ce qui pourrait être intéressant, ce serait que l'auditrice nous envoie une photo.
De la situation.
Ouais.
On est...
Comme ça, ça nous permettrait de mieux répondre sur le type de végétaux qui pourrait aller. Alors, en sachant qu'il existe des plantes à forme ce qu'on appelle colonnaire, qui monte tout droit, donc qui permet justement d'avoir, je dirais, une forme assez faible. Mmh. Et ne pas oublier que dès qu'on va faire un système palissage avec de la vigne, du kiwi et compagnie, ça peut être très en feuilles l'été, pas de feuilles l'hiver, c'est sûr, mais ça permet de travailler sur 50 cm par contre. Donc mettre toute une longueur de piquet, par contre, ça pourrait être intéressant.
Et de ne pas avoir effectivement trop d'épaisseur et de répondre à la question. Vous aussi, vous avez une question, n'hésitez pas, contact@monjardinbio.com. Il faut que je crée ce mail, j'ai nous oublié. contact@monjardinbio.com pour nous envoyer vos questions, évidemment, et commentaires, et puis réagir aussi à ce qu'on a dit au début de cette émission. Eric, il est l'heure du dossier de la semaine consacré à la taille guyot de la vigne.
Ouais.
Alors, loin de nous l'idée de faire de nous des viticulteurs, Eric.
Non, pas du tout. Hein. Le principe, c'est de pouvoir, parce que de plus en plus d'acteurs qui aiment bien planter un pied de vigne, qu'il soit dans une région viticole ou pas, parce que voilà, ça peut être souvent sur du raisin de table par exemple, hein, ça peut
bien
être
sûr.
Ou du raisin de vigne, si on prend du muscat ou des trucs comme ça, ça peut être mangeable, hein, tout à fait, et je sais qu'il y en a, ils font aussi des cures, ce qu'on appelle de raisin, donc c'est-à-dire ils ne mangent que ça pendant un certain temps, et ça permet de faire un peu un moment de rupture avec peut-être une consommation un peu trop riche.
Okay.
Donc, la vigne, l'idéal de la vigne, c'est je plante un pied, je laisse courir. Comme ça, il n'est pas malade. Sauf que les grappes sont toutes petites. Donc, le but du jeu, c'est quand même manger des grappes et pas forcément que des grains. Donc, ce qui est important, si on fait du palissage de la vigne, ce serait de le faire sur 3-4 fils. Hein. D'abord, ça peut être utilisé partout. Et faire un item de taille qui est assez facile, c'est-à-dire comment, à partir d'une liane, faire entre guillemets un arbrisseau, un petit arbre. Quoi. Voilà. Et donc, le système Guyot, qui est quand même un système qui est quand même très, très, très utilisé en France, hein, voilà, surtout dans les secteurs nord, alors qu'on va plutôt travailler sur le gobelet dans les secteurs sud. Le système Guyot, c'est le nom de la personne qui a inventé ça. Voilà, Guyot a aussi travaillé dans d'autres domaines fruitiers, c'est pour ça qu'on peut retrouver son nom un peu partout. Et donc le principe, c'est que quand on a la formation, c'est pas très compliqué sur les fils, mais après, souvent, ce qui se passe, c'est la taille. Et combien de fois j'ai taillé des pieds qui avaient été placés et que la jardinier ou la jardinière voulait tailler en Guyot, et au bout d'un moment, c'était des pieds qui étaient complètement secs. Alors pourquoi c'était complètement sec? C'est que souvent on n'a pas fait ce qu'on appelle des renouvellements pour les années suivantes. Parce que quand on taille de la vigne, on taille pour l'année et on taille pour l'année qui suit. C'est ça l'intérêt. D'où, dans tous les schémas, pour faire simple, c'est j'ai un rameau voilà, qu'on va appeler, une baguette, parce que ça ressemble vraiment à une baguette, qu'on va mettre sur le fil. Et il y a toujours une deuxième baguette qu'on va couper, je dirais, à deux yeux. Qui va servir pour la production de l'année suivante. C'est-à-dire, sur les deux yeux, il y en a un, donc c'est-à-dire l'œil du dessus qui va servir de baguette qu'on va remettre sur le fil, et le bourgeon qui est en dessous va servir de nouveau de baguette qu'on va couper à deux yeux, qu'on va appeler ça un courson. Enfin, en Alsace, on peut l'appeler ça comme ça, mais d'autres secteurs en France, on l'appelle autrement, qui va servir à deux yeux, le plus près possible pour que le flux de sève du cep soit dans le bon sens. Et ça va permettre justement de refaire d'année en année, à partir de ce courson, deux tiges qui vont être une à plat, qu'on va mettre sur le fil pour la production de fruits, et l'autre qui va servir pour faire du bois. Donc voilà. Donc c'est vraiment assez simple de le faire, on trouve pas mal de schémas, et souvent ce qu'on me dit, oui mais le schéma me paraît simple, donc c'est bizarre. Sachez que le jardinage c'est pas forcément compliqué, hein. Des fois il y a des choses qui peuvent être dans la simplicité. Mais il faut que je vous rende tous attentifs, tous et toutes, c'est que la vigne, pourquoi la vigne est souvent malade et pourquoi la vigne a des problèmes souvent à des sèches et compagnie, c'est parce qu'on la contraint tellement par la taille qu'on risque de faire des maladies du bois. Et souvent, quand on la taille mal, on va accentuer cette maladie du bois. C'est pour ça que souvent, l'intérêt, c'est garder ses flux de sève, parce que dans une vigne, si on un endroit, à un bout d'un moment, sur un côté, surtout si on fait du guyot simple, ça c'est bien, mais à la fois c'est mieux des fois d'avoir sur double, c'est-à-dire un côté de l'autre, de chaque côté du fil. Bah, si on fait moins attention sur un côté, au bout d'un moment, le flux se lève, on le stoppe, et une partie de la tige est dessèche, et il faut la couper. Et dès qu'on va commencer à faire des grosses coupes, et on va mettre des zones de bois à nu, on va favoriser, les maladies du bois, en sachant que le particulier va traiter beaucoup moins que le professionnel. Mmh. Donc, c'est pour ça que des fois, on a des gros risques. Moi, par exemple, dans mon jardin, j'arrive jamais vraiment à avoir une belle vigne parce que je suis en situation très humide et c'est très compliqué. Quoi. Voilà.
Donc, plein de maladies, forcément.
Voilà, et notamment le fameux botrytis et voilà, le mildiou qu'on en parlait tout à l'heure. Donc, ça, c'est important. Ce qui est important surtout, c'est les mois qui vont venir. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez bien décidé sur le cep, quelle est la baguette que vous allez garder? Il y a des schémas, hein, que vous pourrez retrouver sur le blog.
Bien sûr.
Et les deux coursons, toutes les pousses qui sont en dessous de ça, c'est-à-dire du sol jusqu'au courson et jusqu'à la baguette, il faut les enlever à la main. Parce que plus on va utiliser le sécateur, parce qu'on aura trop attendu vers le mois de juillet et août pour les enlever, ou voir l'année suivante, plus on va créer des tailles dans le bois. Et quand on fait des tailles dans le bois, c'est des intrusions de maladies. Tout ce qu'on va pouvoir faire au doigt, au pouce, c'est-à-dire enlever les jeunes feuilles qui vont naître en dessous du courson et en dessous de la baguette, plus il y aura une cicatrisation rapide et surtout pas d'interférence, avec le flux de sève. Donc on appelle ça épampré, hein. C'est enlever les pampres, hein, c'est-à-dire les jeunes pousses qui sont en dessous de ça, qui doivent former en principe des grandes tiges. Et comme c'est très près des racines, Si vous les laissez, ça va faire des grandes tiges partout. De toute façon, vous serez obligé de les couper. Donc autant les enlever au pouce. Hein. C'est des pamperages que vous pouvez faire des fois deux fois à trois fois. Dès que vous voyez une pousse, vous l'enlevez au doigt. Si vous ne pouvez pas l'enlever au doigt, c'est que vous prenez trop tard. Donc l'année suivante, attention à ça, de bien enlever. Je sais, ça c'est des travaux qui sont faits souvent chez les plus jeunes dans les exploitations agricoles. Hein. Quand on a une vigne, bah, les jeunes font les pamperages. Hein. C'est chiant, mais voilà, c'est nécessaire pour les.
Bah, ça donne mal au dos, quoi.
C'est ça.
Même
c'est
si ça. On a des fois des longs outils.
Des longs outils, on gratte avec le pied, des fois ça arrive si on en a marre.
C'est ça.
Mais c'est important. Et donc, ce qui est important au niveau de la taille guyot de la vigne, hein, c'est vraiment de pouvoir travailler sur l'année et l'année qui va suivre. Donc, la tige à plat, c'est pour la production de l'année, c'est-à-dire qu'à partir de chaque hull, il y a une pousse qui va pousser et vous aurez du fruit. Et à partir l'autre partie, vous avez laissé à deux yeux, ça sera, là aussi, il y aura du fruit sur les yeux que vous avez laissés, mais surtout, ces cannes qui vont être là sont plutôt privilégiées pour faire ce qu'on appelle les futures baguettes pour les suivantes. Alors j'ai mis une petite variante qui s'appelle le guyot poussard, c'est-à-dire vous pouvez faire la même chose mais en laissant je dirais deux tiges de chaque côté à la formation. Donc c'est ce qu'on appelle entre guillemets du guyot double. Mais c'est pas tout à fait un guyot double, c'est simplement d'un côté on va laisser un petit tronçon donc le courson avec deux yeux et de l'autre côté on va faire comme on l'a fait précédemment, il y aura une baguette plus un petit courson avec deux yeux. Voilà.
Est-ce qu'on a fait le tour de la vigne?
Ouais, alors c'est très compliqué de l'expliquer, je l'avoue, en le disant.
Mais il y a un schéma.
Mais il y a un schéma, voilà.
Que tu as fait.
J'ai fait le schéma. Et surtout, ne vous prenez pas la tête si vous trouvez ce qu'on vous propose, c'est assez simpliste au niveau quand vous faites sur Internet, parce que la taille guyot, c'est assez simple. Voilà. Franchement, d'ailleurs, c'est ce qui est le plus pratiqué. Hein. Voilà. Et ça n'empêche pas qu'en ce moment, on est en pleine taille de la vigne, hein, voilà, jusqu'en mars. Allez voir comment font les gens, quoi. C'est des fois la meilleure façon de trouver. Et n'oubliez pas qu'en fonction du lieu où vous êtes en France, ce que je vous invite, c'est aller voir la technique en gobelet ou taille guyot. De toute façon, ce qui est utilisé dans le secteur, ça sera celle qui sera la plus efficace pour vous. Voilà.
Oui, après, tout le monde n'habite pas forcément dans une région viticole, Eric.
Non,
voilà.
Complètement.
D'où tes spécifiques, enfin, d'où tes propositions là.
Bien sûr.
Nous fait, quoi. On est d'accord.
Voilà.
Rapidement, la vigne peut globalement pousser partout, même dans un pot, Eric.
Non, parce que le système racinaire est quand même assez profond.
Oui.
Il faut vraiment, ça fait plusieurs mètres et mètres et mètres, hein, donc ça va vite être contraint dans le pot. Non, le long d'un mur et compagnie, ça marche très bien. Alors, on pourra le tailler de différentes manières. Ça peut servir aussi pour être sur un support en bois, voilà. En sachant que une vigne qui n'est pas traitée, c'est pas facile, quoi.
Bon, pas facile pour obtenir évidemment.
Ouais, voilà.
Alors, le des raisins, quoi.
Voilà, le traitement n'est pas forcément quitte en conventionnel ou avec des pesticides, mais voilà, c'est. Voilà. Et des fois, ça peut arriver qu'une vigne qu'on a laissée un peu laisser pousser. Alors c'est vrai, je ne suis pas assez spécialiste sur ce qu'on appelle la taille 12 de la vigne qui permet de tailler plus long, beaucoup plus long, notamment sur du raisin de table. Mais je vous invite, si vous avez à proximité ou si vous-même vous faites une taille longue de la vigne, nous on est intéressés à travers des schémas pour qu'on puisse informer nos auditeurs et auditrices.
Eric, on a fait le tour de la chose, mais il n'y a pas de dossier de la semaine, en général très lié à, évidemment, un dicton et un faux dicton de la semaine.
Ouais, qui est très nul cette fois-ci, mais bon.
Qui est quoi? Non, mais moi je le trouve très drôle.
Il faut
apprendre l'accent, quoi, c'est ça?
Bah alors voilà, c'est donc bien sûr, c'est autour du cep de vigne. Hein. C'est en travaillant avec les cep nains que Blanche-Neige a eu mal au dos.
Voilà, alors, avec un petit accent, ça passe bien.
Ouais, alors à un moment, je me suis dit. Est-ce que c'est assez sérieux de dire ça? Mais je me suis dit.
Oui, on va vous laisser.
À un moment, je me suis dit. Dans la partie la plus, je veux dire, infâme de moi-même.
Non, mais écoute.
Ouais, ça va.
C'est propre, ça va. Ça reste propre. Il y a plein de sous-entendus.
Il n'y a pas de sous-entendu du tout de notre part.
On est d'accord, mais en tout cas, voilà. Prenez et picorez ce que vous voulez, c'est un peu ça l'idée. Bon, en tout cas, merci infiniment pour ce faux dicton, ce dossier de la semaine, et puis bien sûr, ces nombreuses réponses aux nombreuses questions de nos auditeurs. Vous continuez à nous les envoyer sur contact@monjardinbio.com. Rendez-vous sur Instagram, sur Facebook, sur notre blog, bien sûr, sur le site monjardinbio.com. Rendez-vous le 14 février.
Ouais.
Où ça? Bah, en librairie.
En librairie.
Accessoirement. Et bien sûr, dans notre newsletter hebdomadaire, comme on dit. Je vous souhaite évidemment une excellente journée, matinée, nuit. Ça dépend comment vous nous écoutez. Le téléphone sonne. Il est l'heure de raccrocher. Mais avant ça, Eric, évidemment, le mot de la fin que je
te disons que au nord de la ligne, je dirais au-dessus de Lyon, faites pas grand-chose pour l'instant. Hein.
Toujours pas, mais on se réveille la semaine prochaine, c'est ça?
On se réveille un peu plus la semaine prochaine, laisser un peu le sol se ressuyer, c'est quand même, voilà, après le coup de froid, un coup de dégel du sol, ça colle un peu, quoi. Donc, après, dans le sud, faites ce que vous voulez. De toute façon, j'ai l'impression qu'il fait toujours beau.
J'ai un client qui voulait semer son gazon, là, dans 15 jours.
Hein, pourquoi pas. Moi, je dis pourquoi pas, voilà.
Comme quoi, effectivement.
Parce que de toute façon, si vous ne pouvez pas passer la griffe dans le sol, ce n'est pas la peine de semer. Hein.
Bon, donc laissez un peu ressuyer. Mais promis, la semaine prochaine, on sort le terreau, la mini-serre, les graines d'aubergine et de poivrons, c'est ça?
Et on récolte les tomates. Voilà.
Et on récolte les tomates. Allez, Eric, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Salut, salut.